Moment documentaire. Les mardis après-midi. Bon après-midi, vous écoutez JetFM 91.2 et c'est la série documentaire de Domiti de Vevey, 6,50 m, sur la traversée de l'Atlantique en voilier. Aujourd'hui, l'épisode 4, Bon vent, bonne mer. N'hésitez pas à retrouver les épisodes précédents en ligne ou sur le site de JetFM.
Nous sommes le samedi 23 septembre 2023 et demain, c'est le départ de la Mini Transat.
À destination des Sables d'Olonne, il desservira.
Je suis dans le TER quand je reçois ce message.
Bah là, je vous laisse ce message déjà pour vous dire que le départ de demain a été supprimé. Du coup, on s'est décalé à je ne sais pas quand encore, sachant que j'ai pas la date du nouveau départ. J'espère que ça va pas décaler dans trop longtemps parce que j'ai vraiment hâte de partir. Je me sens hyper chanceux d'être là, c'est carrément trop bien quoi. Bien sûr, j'ai beaucoup bossé pour arriver ici. Je suis pas illégitime d'être ici, mais c'est quand même une chance incroyable. Et bah, j'ai hâte d'avoir une nouvelle date de départ. Voilà, bah, je vous embrasse tous, toutes. Gros bisous et puis je vous tiens au courant pour le nouveau départ.
Merde. Bon, bah je reste à Nantes alors. J'espère qu'on va pas trop attendre le départ.
Un mini, c'est un bateau de 6,50 m qui est destiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitil de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai vu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me suis dit lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben, genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Top !
Épisode 4. Bon vent, bonne mer.
Avant, il y avait un là. Avant, il y avait un là.
Dans ce documentaire, on suit Bruno. Voix enrouée et moitié du crâne décoloré, et un rêve vieux comme lui, traverser l'Atlantique en mini 650. Je m'appelle Domitil de Vevey, et grâce à mon petit micro et à notre amitié, je l'ai suivi depuis le début de cette aventure. Bruno a commencé par se qualifier pour la mini transat, une course qui a lieu tous les deux ans et qui se déroule en deux étapes. Un premier saut depuis les Sables d'Olonne jusqu'à Santa Cruz de la Palma aux Canaries, puis la grande traversée vers la Guadeloupe. Dans l'épisode 2, vous avez découvert Callisto, son bateau, qui est aussi une œuvre d'art flottante. Dans l'épisode 3, il surprend tout le monde en arrivant premier lors d'une course au printemps, mais se surmène et, atteint d'un staphylocoque doré, doit tout mettre en pause à deux mois du départ. Aujourd'hui, Bruno est enfin sur la ligne de départ de la Mini Transat. Enfin, presque.
Bon alors Bruno, on est dans Callisto là.
Oui, on est dans Callisto.
On est à 12 jours du départ. Hein.
11 je crois même, non.
T'es au taquet, c'est bien, je vois que tu vérifies.
L'été est passé, et avec lui les doutes. Je retrouve Bruno sur le ponton de départ, au Sable d'Olonne.
Au niveau de la préparation, je commence à voir un peu le jour. C'est sûr qu'avec mes petits problèmes d'hospitalisation et tout, là, bah, je vais pas avoir la meilleure préparation physique. Mais mentalement, je suis super bien, tellement content d'être sur mes deux jambes que je crois que ça compense largement. Et en plus, techniquement, le bateau, il va être super bien préparé. Là, je suis vraiment content des petits dossiers que j'arrive à faire. Je pensais pas réussir à tout faire. Et en fait, je vais faire quand même une grande partie de tout ça. Et puis, bah, je vais avoir le plus beau bateau de la flotte. Donc ça, je suis ravi.
L'infection aurait pu lui coûter cher, mais il est debout. Dans ce sport, les jambes comptent moins que la tête.
Je suis pas hyper stressé du fait que j'ai pas une préparation physique énorme. Je reprends tranquillement le footing et pense que ma préparation, elle est presque plus mentale, d'essayer de voir un peu mes amis, les gens autour. Je sais que ça va me manquer et là, je suis un peu le plein de tout ça. Voilà, donc c'est un joyeux dosage entre un petit peu la fête, un petit peu de sport et essayer d'être vraiment bien dans sa tête sur le départ, quoi.
Alors, il faut que je vérifie si j'ai reçu la compte de Anne-Justine pour le bateau.
Callisto est déjà en train de trouver sa prochaine propriétaire.
Ouais, trop bien.
Dans le monde de la mini-transat, les bateaux changent souvent de main à la fin de chaque édition pour que d'autres puissent se lancer rapidement. Les briefings sécurité rappellent brutalement dans quoi on s'embarque. Traverser l'Atlantique sur un voilier de 6,50 m, ce n'est pas une balade.
Okay, on va pouvoir commencer la conférence.
Avec l'accord de l'organisation, j'assiste au briefing. Un membre du CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, explique aux 90 skippers présents les procédures en cas de naufrage.
Alors tout d'abord, un sauvetage ou un naufrage, ça dépend de quel côté on se place, ça passe toujours par quatre phases. Première phase, ça sera alerté. Deuxième phase, il faudra vous signaler. Troisième phase, vous mettre en sécurité. Quatrième phase, être récupéré. Si vous ne passez pas par ces quatre phases-là, c'est que vous en avez oublié une et qu'à un moment, vous risquez d'avoir un souci.
C'est dense, technique et un peu flippant.
Quand on va évacuer, eh bien, si on n'a pas sa combinaison de survie sur soi déjà, si on ne s'est pas préparé, eh bien, vous risquez en tout cas de mourir congelé, parce que même s'il fait beau en ce moment, vous allez voir que l'eau, en tout cas, reste très fraîche au large, une fois qu'on est au milieu de la Grande Bleue.
Bruno a déjà assisté à des briefs similaires. Et il sait pourquoi c'est utile.
Ce matin, c'était un peu le brief classique avec les conducteurs des avions qui peuvent venir nous chercher en mer, en fait. Ce qui est important dans le sauvetage, c'est le fait que on n'a pas forcément les bons réflexes au moment venu, et donc plus on les travaille en amont, plus on peut avoir la capacité d'avoir les bons gestes au moment de se faire secourir, quoi.
Et pour ne rien oublier, même en état de choc.
À la suite d'un choc émotionnel, on peut perdre jusqu'à 80% de nos capacités cognitives. On perd tout réflexe, et donc en fait, se faire des fiches, c'est quand même pas mal. De savoir à quelle vitesse je suis censé pouvoir aller en fonction des conditions du vent, ou même tout simplement des fiches qui me disent il y a tant de vent, telle angle de vent, bon bah tu mets telle voile. Et pas avoir besoin d'utiliser son cerveau, mais plutôt ses yeux.
Dans la course au large, il y a un autre danger, invisible, le manque de sommeil.
C'est une course d'endurance, cette course-là, et donc le sommeil c'est primordial, la façon dont on le gère. Ce qui est important, c'est de pouvoir quand même être en éveil le plus souvent possible pour pouvoir suivre les variations du vent et faire évoluer les réglages et tout ça. Moi, je dors par phase de 20 minutes ou 40 minutes avec un petit réveil entre les deux pour vérifier un coup d'œil sur les instruments. Si j'arrive à dormir 5 heures sur 24 heures avec un repos efficace, c'est ce dont j'ai besoin. Et pour atteindre ce repos efficace, il y a un enjeu de dormir au bon moment et de pas forcément trop vouloir anticiper du sommeil.
Pour bien comprendre son rythme, Bruno a travaillé avec un professionnel de santé.
L'autre chose que je prépare déjà depuis presque 6 mois, c'est d'identifier dans la journée ce qu'on a appelé avec le médecin les portes du sommeil. C'est très, très précis, c'est quasiment au quart d'heure près. C'est des créneaux où je suis capable de m'endormir très rapidement. Il y en a 7 ou 8 sur 24 heures. C'est souvent lié au fait qu'on mange. Enfin, il y a vraiment un horaire assez précis. Puis après, il y a un moment où j'arrive assez facilement à faire une petite sieste, quoi.
Finalement, le départ n'a été repoussé que d'un jour.
J'ai donc pris le train de 18h12 et retrouvé Bruno et sa famille pour les dernières 48 heures avant le grand saut. Les deux nuits, j'ai dormi sur Callisto, qui a l'avantage de m'offrir un couchage au cœur du village de départ de la Mini Transat.
Alors on est le 24, il est minuit passé, demain c'est le départ. Je suis dans Callisto, je suis dans ce tout petit espace qui est l'intérieur du bateau. Donc il a tout organisé, tout est attaché, mais en même temps tout est déplaçable, puisque tout se déplace dans un bateau pour optimiser le poids. Il a ses cartes au plafond. Il a sa casquette et là-bas je vois les bidons d'eau, ses voiles, tout son matériel. Devant moi il y a son petit réchaud, sa VHF. Il a collé aussi. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, dans cette petite boîte de comprimants effervescents. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là il y a la radio et son briquet, cadage et une corde, son matos, une combinaison. Il y a son tabac qui est dans une pochette imperméable, ses lunettes de soleil, sa tablette Kindle, tout est scotché. Il a des stickers aussi, des stickers aérofables, et puis des petits mots que lui ont laissé les gens. Moi j'ai écrit « Go Bruno, go, va le plus vite possible et ramène-moi, si ce n'est la première place, des beaux sons et de belles sensations ».
Salut. Tu te réveilles ou quoi?
Ouais, carrément. Je suis encore tout embrumée de ma nuit sur Callisto, mais Bruno, lui, est déjà en orbite.
Ce matin, on a eu un dernier brief à 7h avec le routeur. Donc là, je suis prêt. Tac. Je fais un petit réglage du gréement avant de partir pour ramollir un peu le gréement parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent annoncé au début. Et puis voilà, bah, je suis trop content, j'ai bien dormi. J'ai hâte d'être sur l'eau et que la ligne soit franchie parce que je pense que ça va être encore un petit peu stressant jusqu'au coup de sifflet du départ. Ensuite, les conditions, elles s'annoncent quand même assez chouettes dans le sens où on a un peu plus de vent que prévu. Je me sens hyper chanceux d'être là, c'est trop bien. Et j'ai hâte de passer tous ces jours d'affilée sur l'eau parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Et puis je vais aller dire au revoir à tous les copains et les copines qui sont autour et qui partent avec moi et avec qui j'ai partagé tous les entraînements et toute la prépa, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Et bah, surtout de prendre du plaisir et puis après d'arriver aux Canaries avec le bateau entier. Et c'est surtout le plaisir qui drive ce moment-là, je crois.
Parmi toutes les superstitions liées au monde marin, on dit qu'il est de mauvais augure de souhaiter bonne chance à un marin au départ ou même de lui dire au revoir. Mais on peut lui dire bon vent et bonne mer, ce que je fais. Ça y est, c'est le départ, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on est le lundi 25 septembre, le temps est gris et les bateaux sont en train de se préparer pour partir. Les zodiacs sont en train de venir les chercher un par un pour les positionner sur la ligne de départ puisque les bateaux partent sans moteur et ils ne peuvent pas manœuvrer à la voile dans un port comme celui-là. Tous les bateaux sont prêts et nous aussi. Donc il y a beaucoup de monde sur les quais. Entre deux réglages, Bruno serre une main, échange un sourire, puis revient à son bateau. Les voix se mêlent.
Avec la voile que tu as,
les embrassades s'enchaînent.
La bonne course.
Ah ouais, t'as vu.
T'as pas passé le RI3?
Quoi?
T'as pas mis le RI3?
Non.
Toi, oui.
Le moment où il faudra quitter la Terre se rapproche.
Méga serein.
Ça va. J'ai envie de quitter le ponton là. Et passer la ligne aussi.
Un zodiac vient chercher le bateau de Bruno.
Tu veux faire l'avant, Bruno?
Allez,
bisous, on dit en Guadeloupe.
Yes.
Bonne fortune, Bruno.
Il est un peu plus de midi désormais. Avec la famille de Bruno, je suis montée à bord de la Fleur de Lampole, un voilier qu'ils ont loué pour l'accompagner jusqu'à la ligne de départ. On est un petit comité serré sur le pont, les yeux rivés sur l'horizon. Heureusement, mon mal de mer ne se manifeste pas ce jour-là. Philippe, l'un des oncles de Bruno, m'explique la procédure de départ.
Le but du jeu, c'est de ne pas passer la ligne avant l'ordre de départ, mais de ne pas passer trop loin, parce que comme ils sont très nombreux, s'il est très en retard, et bien il a le vent perturbé par tous les bateaux qui sont devant, et c'est un gros désavantage. Sur un départ, et bien, on veut être très bien placé pour profiter justement de ce qu'on appelle le vent frais, mais plus on veut être bien placé, plus il faut être près du bateau jury, avec plein de bateaux autour, et c'est le risque de casser. Donc il faut être capable de juger, est-ce qu'on va dans la zone dangereuse pour essayer de partir dans les premiers, ou est-ce qu'on est un peu plus prudent? Et je dis, sur une transat, c'est moins grave. Un mauvais départ, c'est moins grave que de casser un bateau, bien évidemment.
Autour de nous commence un étrange ballet.
Tous les concurrents du comité te dansent environ en voie du pavillon orange.
Dans 5 minutes.
Non, pavillon orange, c'est un premier.
Le départ se fait entre un bateau comité et une bouée. Une ligne fictive. Tendue. Invisible. Pour éviter que tout le monde fonce en vrac, il y a une séquence de signaux qui laisse le temps à chacun de se positionner juste avant la ligne de départ.
Du pavillon orange flag.
Il y a donc le pavillon orange. Lorsque celui-ci est envoyé, il indique que la ligne de départ est ouverte.
Pour le signal d'avertissement, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Warning signal.
Le signal d'avertissement indique la classe concernée par la course, en l'occurrence la classe Mini 650, y est envoyée 5 minutes avant le départ. Puis vient le préparatoire, qui est hissé 4 minutes avant le départ, et 1 minute avant le départ.
Pour la minute 5, 4, 3, 2, 1... Minute.
Les bateaux tournent, s'évitent, cherchent la meilleure place. Dans une minute, ils vont s'élancer.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Bon départ et bon vent à tous.
Philippe scrute Callisto avec des jumelles.
Philippe, comment est-ce qu'il est parti, Bruno ?
Eh bien, écoute, de ce que je peux voir, il n'est pas si mal parce qu'il est au vent de la flotte et assez en avant, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal parti. Alors, il y a beaucoup qui prennent un départ très prudent en étant loin derrière, mais lui, évidemment, ce qu'on imaginait bien, c'est qu'il est allé se bagarrer avec les premiers et je pense qu'il s'en tire plutôt bien, mais on va voir ça dans quelques minutes.
Et nous, sur la fleur de l'Ampol, on l'applaudit. Bruno file vers le large, on le suit de loin. Quelques photos, quelques bras tendus. Et puis on se laisse dépasser. Ça y est, il file déjà vers l'horizon. Calisto avance en contournant la pointe du Cap Finistère en Espagne. Et elle va vite. Très vite même.
Ah là, ça envoie fort, fort, fort.
C'est un gros kiff.
À la vacation, le bulletin météo tombe deux fois par jour à 7h et 15h temps universel. Et après les prévisions, le classement s'égrène, proto puis série, ou l'inverse.
Donc, pour le classement des bateaux de série à 7h PU, premier, 893, Bruno Lemunier, Calisto Aérofab, à 447 mètres. Deuxième, 921.
Tout le monde suit le nez collé à la carte numérique de la course. Charles, son ami, n'en revient pas.
J'hallucinais carrément, parce que autant je savais qu'il était à fond sur toute sa prépa, il avait rien négligé, et puis il avait fait des super places tout au long des deux saisons avant. Mais là, de le voir premier au général, ouais, c'était fou. Enfin, j'y croyais pas, j'étais là, la pression.
En mer, Bruno trace sa route en outsider. Il me raconte ça après coup.
Je fais le choix de me rapprocher de la route directe, puis là, je me retrouve premier devant tout le monde, quoi. Enfin, même devant tous les bateaux proto. Donc ça fait que là, je fais une très belle course en tête pendant des jours.
Et puis le temps s'étire.
Après le waypoint virtuel là, de l'Orga, vu que je le passe en premier, là j'ai un peu relâché, c'était cool, j'ai dormi. Là j'ai passé 4 jours tout seul, à voir personne à la radio et à l'AIS. Et du coup, là c'était trop chouette parce que les conditions étaient quand même assez belles, le vent pas trop fort, assez engagé niveau de la course parce qu'il y avait encore beaucoup de manœuvres et de transitions de vent à gérer. Mais j'ai eu l'impression d'avoir plus du temps pour moi, d'écouter beaucoup de musique, des podcasts bien sûr, et puis plus prendre du temps pour écrire un peu et tout. Ensuite, quand je voyais que ça persistait et que j'étais devant, j'étais hyper content de ma course et il y avait ce truc un peu de... J'étais content de mon coup, quoi.
Mais la dernière journée, le vent tourne. Un petit groupe à l'ouest le dépasse. Il termine quatrième à 5h du premier.
Quand j'ai vu en fait l'île de La Palma, j'étais trop ému, j'étais encore en train de chialer. Je l'ai vu au dernier moment en plus, j'ai vu quasiment la bouée d'arrivée en même temps que l'île, tellement c'était dans la brume. Donc je me suis un peu effondré à la fin, mais bon, j'étais tout seul quasiment, il y avait Greg pas loin, mais c'était pas mal.
Et ce n'était que la première étape. Dans le prochain épisode, Bruno jette l'ancre dans la marina de Santa Cruz de La Palma pour un mois. Une escale loin d'être de tout repos, entre fêtes, nuits blanches, excursions et préparations pour la grande traversée. Et une question qui plane sur tous, comment se prépare-t-on à l'inconnu ? L'ombre des volcans, c'est le prochain épisode de 6 m50. Écriture, réalisation, montage, Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Luisa. 6m50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Calisto. Vous avez aimé ce podcast ? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.